Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 4 octobre 2016, en direct de Washington. Jean-Roger Billon et Anne Alberson pour commencer les titres.
Au Mali, un casque bleu tué dans une attaque contre un camp de la MINUSMA à Aguelhok.
Les États-Unis ont décidé de ne plus délivrer de visa aux responsables du gouvernement gambien et leurs proches.
En Égypte, les autorités disent avoir tué dans une fusillade deux membres de l'organisation des Frères musulmans, dont un responsable de son aile armée.
Environ 6 055 migrants, l'un des chiffres les plus élevés de l'année, ont été secourus hier au large de la Libye.
Moscou dit regretter la décision des États-Unis de suspendre les pourparlers sur un cessez-le-feu en Syrie.
Ne manquez pas notre segment en quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier notre page de sport, ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, attaque contre un camp de la MINUSMA à Aguelhok. Bilan, un casque bleu tué, 5 autres grièvement blessés. Suite à cette attaque, des dispositions immédiates ont été prises par la MINUSMA qui a déployé une unité rapide sur place afin de circonscrire le danger dans la zone. Des précisions avec Kassim Traoré.
Au moment où tous les regards sont tournés vers les combats entre Imgad et Ifugas aux alentours de Kidal, c'est la période choisie par les djihadistes pour mener des opérations. Comme ce fut le cas ce lundi 3 octobre 2016 au niveau du camp de la MINUSMA à Aguelhok. Les assaillants ont profité d'une aire de flottement, 14 heures, pour faire cette attaque à Aguelhok dans la région de Kidal. Et c'est le camp de la MINUSMA qui a été la cible de plusieurs tirs de mortier. Une force d'intervention rapide de la MINUSMA a immédiatement été déployée après les tirs pour en identifier l'origine. Deux des véhicules d'intervention ont heurté une mine. L'explosion a entraîné la mort d'un casque bleu. Plusieurs autres soldats de la paix ont été blessés, dont 5 grièvement. Ils ont pu être évacués dans un premier temps vers la ville de Kidal. La MINUSMA condamne ces attaques perpétrées contre ses forces et affirme que ces attaques n'affaibliront pas la détermination des Nations Unies à soutenir le gouvernement malien, les parties signataires de l'accord de la paix et le peuple malien dans leurs efforts pour parvenir à une stabilité durable. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le projet de budget 2017 en Côte d'Ivoire sera marqué par une hausse des dépenses liées à la sécurité, après notamment l'attaque de Grand Bassam en mars dernier, qui a fait, vous vous en souvenez, 19 morts. Selon le ministre du budget, Abdourahman Cissé, près de 100 milliards de francs CFA, environ 200 millions de dollars, seront injectés dans le renforcement du secteur de la sécurité. Conséquence, le déficit budgétaire devrait grimper à 4%.
En Égypte, le ministère de l'Intérieur a annoncé aujourd'hui avoir tué dans une fusillade un dirigeant de l'organisation des Frères musulmans, présenté comme responsable de son aile armée, ainsi qu'un autre membre du groupe. Mohamed Kamal, membre du bureau exécutif des Frères musulmans, et Yasser Shehata, autre figure de premier rang, ont été tués. Les autorités précisent avoir lancé une opération dans un appartement du quartier de Bassatine, au Caire, après avoir appris qu'il servait de repère aux dirigeants du groupe.
Environ 6055 migrants, l'un des chiffres les plus élevés de l'année ont été secourus, mais 9 ont trouvé la mort au large de la Libye hier lundi, jour du 3e anniversaire du terrible naufrage de Lampedusa, à l'origine d'une mobilisation européenne. Les migrants étaient entassés à bord de 39 embarcations, essentiellement des canots pneumatiques, mais aussi 5 bateaux de pêche, avec plusieurs centaines de personnes à bord et 2 radeaux, quasiment tous récupérés à 30 miles nautiques au large de Tripoli.
Les États-Unis ont décidé de ne plus délivrer de visas aux responsables du gouvernement gambien et leurs proches. À l'origine, un litige sur l'expulsion de ressortissants gambiens en situation irrégulière. Eric Manirakiza.
La mesure est en vigueur depuis lundi. L'ambassade américaine à Banjul a cessé de délivrer des visas aux responsables du gouvernement gambien ainsi qu'à leurs familles jusqu'à nouvel ordre. Selon un communiqué de la représentation diplomatique américaine, c'est en raison du refus du gouvernement gambien de fournir des passeports ou autres documents de voyage à des citoyens gambiens en instance d'expulsion des États-Unis. Ces représailles américaines n'affectent pas les simples citoyens, mais la mesure pourra faire l'objet d'exceptions pour des voyages liés aux obligations internationales des États-Unis ou à la promotion d'intérêts américains, humanitaires ou autres, souligne l'ambassade américaine en Gambie.
Le nombre de réfugiés originaires de la République démocratique du Congo arrivant aux États-Unis dépasse celui des réfugiés syriens. C'est ce qui ressort de nouveaux chiffres publiés lundi par le département d'État. Michel Joseph.
Pour l'année fiscale américaine qui s'est achevée le 30 septembre, les États-Unis ont admis plus de 16 000 réfugiés venant de la RDC contre un peu plus de 12 500 Syriens. C'est une illustration de la violence et des troubles politiques qui agitent la RDC, a expliqué Kathleen Newland de l'Institut politique migratoire basé ici à Washington. Cela pourrait aussi être dû à des formalités moins strictes pour les Congolais qui viennent d'un pays majoritairement chrétien, a souligné l'experte, ajoutant « Nous avons été très sensibles à la possibilité que des gens faisant partie des milices ou des groupes rebelles syriens puissent arriver par le biais du programme pour les réfugiés ». La question de l'administration des réfugiés syriens est un grand sujet de débat ici aux États-Unis en cette campagne électorale. Le candidat républicain Donald Trump a averti que des extrémistes violents veulent se faire passer pour des réfugiés pour entrer dans le pays. Son adversaire démocrate, Hillary Clinton, soutient l'accueil d'un certain nombre de Syriens fuyant la guerre dans leur pays. Dans l'ensemble, les États-Unis ont réinstallé moins de réfugiés syriens que leurs alliés.
Et puis la moitié des personnes déplacées dans le monde est accueillie dans 10 pays seulement, qui pèsent moins de 2,5% du PIB mondial. C'est ce que souligne Amnesty International, qui dénonce l'égoïsme des pays riches dans un rapport publié aujourd'hui sur la crise des réfugiés. Des détails avec Idrissa Seydoudia.
La Jordanie est ainsi le premier pays d'accueil avec plus de 2,7 millions de personnes fuyant leur pays à cause de guerres ou de persécutions. Viennent ensuite la Turquie, plus de 2,5 millions de personnes, le Pakistan, 1,6 million, et le Liban, 1,5 million, souligne le rapport établi sur la base de chiffres du HCR, notamment. Des pays très pauvres accueillent aussi un grand nombre de personnes en quête de protection. L'Éthiopie, 736 000, le Kenya, 554 000, l'Ouganda, 477 000. Cette situation est par nature intenable et expose les millions de personnes qui fuient la guerre et les persécutions dans des pays comme la Syrie, le Soudan du Sud, l'Afghanistan et l'Irak à une misère et des souffrances intolérables, déplore Salil Chetty, secrétaire général d'Amnesty International, dans un communiqué.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministère russe des Affaires étrangères a regretté lundi la décision des États-Unis de suspendre les pourparlers sur un cessez-le-feu en Syrie, accusant Washington de tenter de faire porter sur Moscou la responsabilité d'un échec. Nani Talani.
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, affirme regretter la décision de Washington de couper court au travail des groupes d'experts à Genève, de retirer leurs experts et de limiter des contacts au seul domaine de la prévention des conflits. Elle accuse les États-Unis de n'avoir pas tout simplement rempli la condition clé de l'accord, à savoir l'amélioration des conditions humanitaires aux environs d'Alep, la deuxième ville syrienne qui subit des raids aériens d'une intensité sans précédent depuis plusieurs mois. Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, tout se résumait en fait à une question simple. Qui est le front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda? Qui est derrière lui? Et pourquoi Washington ne peut pas respecter sa promesse de séparer les terroristes de la soi-disant opposition modérée? Pour sa part, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie s'est dit profondément déçu par la fin des pourparlers américano-russes sur la Syrie. Staffan de Mistura a assuré que l'ONU poursuivra ses efforts en faveur d'une solution politique au conflit syrien.
Ici aux États-Unis, la police de Los Angeles a tué deux hommes ce week-end, un adolescent noir et un hispanique, expliquant que le premier était muni d'une arme chargée, alors que le second n'avait qu'un faux pistolet. Deux morts qui ont déclenché de nouvelles manifestations. Ces deux décès portent à trois le nombre d'hommes tués par des policiers californiens en à peine cinq jours.
En Colombie, le président Juan Manuel Santos a annoncé lundi une nouvelle phase de dialogue avec la guérilla des FARC, malgré le camouflet infligé la veille avec le régime rejet inattendu par référendum de l'accord de paix. Santos a tenu ses propos hier lors d'un discours télévisé parlant de la nouvelle donne. Timoléon Jiménez, leader des FARC, a assuré de son côté que cela ne signifie pas que la bataille pour la paix a été perdue. Il s'est dit prêt à rectifier l'accord de paix rejeté.
Enfin, en marge de la campagne électorale ici aux États-Unis, le procureur général de New York a ordonné à la Fondation Trump de cesser immédiatement de lever des fonds dans l'État pour infraction à la législation sur les associations caritatives. La lettre d'Eric Schneiderman fait suite à une série d'articles dans le Washington Post suggérant des irrégularités, notamment l'utilisation de la Fondation pour régler des litiges juridiques. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Place maintenant à la Minute Éco, c'est avec Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, l'opérateur de téléphonie mobile Orange a réalisé un chiffre d'affaires de près de 9 milliards de francs CFA avec son service mobile Monnaie au deuxième trimestre 2016 pour environ 5 millions d'abonnés, selon l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. La compagnie détient 72% de parts de marché dans ce secteur, suivi de MTN avec 22% et 6% pour Move. La société canadienne Kinross, qui exploite la mine d'or de Tasiast en Mauritanie, est parvenue à un accord avec ses employés, mettant un terme à un conflit de plusieurs mois. Parmi les avantages figure notamment un rappel immédiat de 6 mois de salaire, le paiement du 13e mois et la prise en charge de l'assurance maladie à 100%. Le club Afrique Développement organise ce 4 octobre à Dakar une conférence débat sur le thème « Plan Sénégal émergent, quelles opportunités pour les PME ?». Elle sera animée par le ministre du Commerce Alioune Sarr, le président du Conseil national du patronat Bédi Agne et le directeur général du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent Ibrahima Ouad.
Et pour le sport, Bagassi Koura nous a rejoint dans ce studio. On commence par des nouvelles sur la santé de Rigobert Song.
Oui, l'ex-capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, âgé de 40 ans, s'est trouvé hier dans le coma. Selon la radio publique camerounaise, il a été victime dimanche d'un accident vasculaire cérébral. Il a été admis au centre des urgences de Yaoundé et les pouvoirs publics envisageaient hier son évacuation sanitaire vers l'Europe. Mais qui est Rigobert Song? J'ai joint à Yaoundé notre confrère Jean-Bruno Tagnin pour une réponse.
Bah écoutez, Rigobert Song, c'est le dernier vrai capitaine qu'on a eu au sein de l'équipe nationale de football du Cameroun. Rigobert Song a soulevé 2 fois le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et en 2002 au Mali et au Nigeria. Rigobert Song, c'est plus de 15 ans de présence en équipe nationale, donc 10 ans comme capitaine des Lions Indomptables. Il est resté très présent dans les cœurs des Camerounais.
La CAF est courte le nombre de mandats de son prochain président.
Oui, le prochain président de la Confédération africaine de football ne pourra pas aller au-delà de 12 ans, soit 3 mandats de 4 ans. C'est ce qu'a confirmé la CAF ce lundi par la voix de son porte-parole Junior Binyam. Cette mesure prendra effet dès la prochaine élection à la présidence de l'institution en 2017. Elle n'est pas rétroactive. Depuis 1972, la CAF n'a connu que 2 présidents. Cette nouvelle mesure, qui s'appliquera aussi aux membres du comité exécutif de la Confédération, permet à la CAF de s'aligner sur les nouveaux statuts en vigueur à la FIFA.
Coupe d'Afrique des cadets 2017, on connaît les pays qualifiés.
Il s'agit du Congo, du Cameroun, du Mali, du Niger, du Ghana, de l'Angola, de la Guinée-Conakry et du pays hôte Madagascar. Lors de la 3e journée et dernier tour au retour des éliminatoires, le Cameroun a écrasé le Soudan 5-1, 1-0 pour le Congo face à la Tanzanie, 2-1 pour le Mali en Éthiopie. Victoire samedi de l'Angola sur les Comores, 2-0. Match nul, 3-0 entre le Gabon et le Niger. La Côte d'Ivoire a été tenue en échec à domicile par le Ghana, 0-0. Et ce lundi, la Guinée s'est qualifiée en tenant en échec le Sénégal, 1-0.
Merci, c'était la page des sports avec Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon. À ce micro, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, s'est tenue la semaine dernière, 29 septembre, à Abéché, la deuxième réunion tripartite Tchad-Soudan-HCR pour le retour volontaire et librement consenti des réfugiés soudanais se trouvant dans l'est du Tchad. Reportage d'André Kodmajinga, notre correspondant à N'Djamena.
Conduite par l'assistant coordonnateur de la commission des réfugiés du Darfour, Forsa Moudjib Al-Rahman Mohamed, cette mission a du mal à convaincre les réfugiés soudanais, plus de 300 000 vivant sur le sol tchadien depuis 2003. Répartis dans 12 camps dans les trois régions de l'est du Tchad, à savoir le Wadaï, le Wadi Fira et l'Enidi Est, ces réfugiés ont les mêmes préoccupations. La sécurisation des trois régions du Darfour. Dehi et Idriss Kamis, c'est le président des réfugiés du camp de Breding.
Nous sommes des réfugiés de guerre et le retour volontaire dont le chef de mission fait allusion à des préalables. Est-ce que les milices Tchadjawid qui opèrent dans les trois régions du Darfour sont déjà désarmées? Est-ce qu'on a déjà renvoyé ceux qui ont occupé nos terres depuis 2003? Est-ce qu'on a jugé les auteurs des crimes contre l'humanité et génocide dans le Darfour? Est-ce qu'on a construit les localités détruites? Est-ce que les déplacés internes sont déjà réinstallés? C'est toute la problématique. Tant que toutes ces conditions ne sont pas réunies, on ne parlera pas du retour volontaire.
Dans certains camps, les réfugiés qualifient les membres de la délégation soudanaise des victimes comme eux et donc ils n'ont pas qualité à entreprendre cette démarche. Où sont nos vrais bourreaux du Nord qui ont tué nos parents, brûlé nos villages et pillé nos biens, s'interroge-t-il. Nous exigeons la démission et le jugement du président El-Béchir ainsi que ses complices et l'intervention de la force onusienne dans le déminage de certains villages du Darfour, ajoute-t-il. Le délégué régional de la Commission nationale d'accueil des réinsertions des réfugiés et des rapatriés côté tchadien, Ali Abdoulaye Idriss, trouve légitime l'inquiétude exprimée par les réfugiés.
Les réfugiés, ils parlent le même langage. Ils ont demandé à la délégation de repartir, réinstaurer la paix d'abord au Soudan. Donc je pense que leurs revendications étaient légitimes de ma part. Notre institution est tenue de respecter les engagements vis-à-vis de la communauté internationale parce que le Tchad a ratifié la convention de 1951 relative aux statuts de réfugiés. On ne peut pas imposer les réfugiés dans les temps qu'il n'y a pas la paix dans leur pays d'origine.
Forsa Moudjib Al-Rahman Mohamed, chef de mission soudanaise, dit avoir pris acte des préoccupations des réfugiés qui seront transmises à qui de droit.
On a écouté ces réfugiés, tout ce que les réfugiés disent, nous découvrons beaucoup de choses et les recommandations seront transmises finalement au gouvernement soudanais parce que nous ne voulons pas qu'un réfugié rentre aujourd'hui et lendemain il sera de retour encore ici au Tchad. Raison pour laquelle nous cherchons le retour durable pour ces réfugiés.
André Kodmajinga, de retour de l'Est, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Togo, 40% de la population de 15 ans et plus n'ont pas accès aux services financiers. C'est ce que révèle une enquête sur l'inclusion financière. Les résultats ont été publiés cette semaine dans la capitale togolaise. Kay Lawson, reportage à Lomé.
La typologie de l'inclusion financière de la population togolaise de la tranche d'âge 15 ans et plus est désormais connue. Ce sont les résultats d'une enquête réalisée du 17 mars au 24 avril dernier sur la demande en services financiers des Togolais qui la révèle. Cette enquête, dénommée Finscope Togo 2016, a permis d'avoir des statistiques sur l'accès aux services financiers dans le pays. Akoli Gentry, directeur technique de l'enquête Finscope.
18% des Togolais utilisent les services financiers. Mais quand on étend aux microfinances, on se retrouve à 45% et quand on étend à toutes les institutions, on se trouve à 60%. Donc ce qui veut dire que 60% des Togolais adultes, âgés de 15 ans et plus, utilisent les services financiers. Par rapport au crédit, seuls 27% de cette population a déclaré avoir eu du crédit. On se dit que ce taux est très faible. La raison principale évoquée, c'est que les gens n'aiment pas s'endetter.
L'accès au crédit doit avoir une incidence sur le pouvoir d'achat des Togolais, estime Dodi Kumunete, président de l'association Veille économique.
Le seul fait d'avoir accès au crédit ne résout pas le problème. Il faut une économie dynamique, il faut développer un certain nombre de secteurs qui sont essentiels à l'évolution de notre économie pour permettre à tous ces projets qui sont financés, de pouvoir être rentables dans la durée.
FinScope Togo 2016 s'inscrit dans le cadre du programme « Rendre possible l'accès aux services financiers » qui a pour finalité d'améliorer l'inclusion financière en tenant compte des besoins réels des populations. Parmi les initiatives prises à cette fin, figure le projet de transfert d'argent aux femmes financièrement vulnérables. Joëlle Bessinger, représentante résidente de la Banque mondiale au Togo.
Nous avons dans le projet de développement communautaire un volet de transfert monétaire pour les femmes qui sont enceintes ou qui ont des enfants de 24 mois ou 2 mois pour assurer la nutrition de l'enfant. Et donc, ce petit transfert monétaire qu'elles reçoivent chaque mois peut permettre à la femme, avec les autres ressources qu'elle a, de faire des petites épargnes ou des dépenses pour améliorer le bien-être du foyer.
FinScope Togo 2016 recommande d'éduquer la population togolaise sur le système financier qu'elle ne semble pas maîtriser dans sa grande majorité. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Au Bénin, le phénomène de la dépigmentation artificielle de la peau continue de défrayer la chronique. Ceux et celles qui cherchent à s'éclaircir la peau, pensant que c'est plus beau ainsi, ne se rendent pas souvent compte des dangers qu'ils courent. On retrouve à Cotonou Ginette Fleur Adandé, notre correspondante.
Au marché d'Antokpa, le plus grand centre commercial du Bénin, on y rencontre un peu de tout, mais surtout ces hommes et femmes qui offrent des conseils de beauté. Ils vendent surtout des mélanges de savon et de pommade pour le corps, pour tout type de peau, mais beaucoup plus pour ceux qui veulent passer de la peau noire à la peau claire. Mais une association œuvrant pour la sauvegarde de la peau noire, après plusieurs séances de sensibilisation, a réussi à arracher au métier quelques-uns qui étalent ici les dangers du phénomène.
Il y a des gens qui grossissent. Normalement, on croit que c'est de la bonne santé, mais ce sont des gens qui sont en plus de sel et d'eau.
La dépigmentation est une mauvaise pratique. La surveillance de la grossesse chez une femme dépigmentée est une grossesse pathologique.
Tout produit cosmétique aujourd'hui au Bénin depuis 2012 doit avoir une autorisation de commercialisation avant d'être commercialisé au Bénin.
Toutes les femmes béninoises ne sont pas férues de la pratique. Il y en a tout de même qui pensent qu'agresser sa peau à l'aide de produits dépigmentants n'est pas le signe extérieur d'une quelconque beauté.
Partir d'une peau noire pour devenir une blanche, pour ne s'arrêter qu'aux femmes. Ça, c'est une manière de défier la nature, de défier l'autorité de Dieu. C'est d'abord une question d'éducation parce qu'il y a des peaux noires qui sont belles. Donc, il faudrait que les femmes ou les hommes qui s'adonnent à ces pratiques arrivent à s'assumer, c'est important, à s'accepter telles qu'elles sont. Ce n'est pas une référence que d'avoir la peau claire, mais la référence, c'est d'être propre.
Alors que la société béninoise avait encore du mal à accepter la pratique au niveau des femmes, elle s'est heurtée au goût prononcé des hommes pour la chose. Les hommes le font et parfois mieux que les femmes, et ceci pour les raisons que voici.
Nous remarquons que les hommes se dépigmentent pour pouvoir plaire aux femmes, pour que ces dernières investissent dans leur subsistance. Ce sont elles qui achètent les produits éclaircissants, ce sont elles qui les habillent.
Anaïs est dermatologue, elle reçoit son cabinet des patients dont la peau reste marquée par les conséquences néfastes de l'utilisation abusive et répétée des produits dépigmentants.
Les problèmes de peau importants comme la diminution de l'épaisseur de la peau et également des infections graves dues à des champignons, des bactéries, etc. car la peau ne peut plus lutter contre les agents extérieurs qui pénètrent directement dans le corps. Les personnes qui se dépigmentent sur une durée prolongée ont des problèmes d'hyperthyroïdie, d'hypertension, de diabète et aussi de cancer de la peau.
La dépigmentation est un phénomène commun à bon nombre de pays africains, mais au Bénin, elle prend une allure vertigineuse au mépris des conséquences pourtant irréversibles. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Africa.
C'est ce 1er octobre qu'a été célébrée la Journée internationale des personnes âgées. Au Cameroun, où l'espérance de vie est d'environ 50 ans, très peu de personnes atteignent l'âge de 100 ans. Certaines d'entre elles ont accepté de partager leur expérience et encouragent les autres à réduire leur consommation d'alcool, de cigarettes et autres pratiques néfastes. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
La centenaire Jacqueline Ada
affectueusement appelée Mama Konfi en langue Ewondo, aux personnes rassemblées à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé, que le Sénat a toujours protégée, car elle est née il y a plus d'un siècle. Elle va plus loin en disant que ses parents n'ont pas enregistré sa naissance, mais reconnaît avoir plus de 100 ans. Ses souvenirs remontent entre 1914 et 1922, lorsqu'en discutant avec les missionnaires catholiques suite à la demande en mariage de son défunt époux, il lui est conseillé que le pape Benoît XV demande aux chrétiens d'être baptisés avant le mariage. Mama a eu la chance de vivre jusqu'à cet âge. Les personnes âgées au Cameroun n'ont pas accès aux soins, étant donné qu'ils ne sont pas couverts par l'assurance. Minjama, 73 ans, explique que la plupart d'entre eux ne perçoivent pas leurs pensions aussitôt qu'ils sont retraités.
L'autre jour, j'étais à un hôpital, on m'a demandé qui s'occupe de moi. Là, je dis que je n'ai personne. Je n'ai pas d'assurance maladie. Dans les familles, la personne âgée est considérée comme une personne à négliger, qui ne sert plus à rien. Dès que vous êtes déjà vieux, on dit que vous êtes un sorcier.
La majorité des personnes âgées sont abandonnées à eux-mêmes et à leur famille. Albert Fouda s'occupe de sa mère âgée de 80 ans.
La situation de maman est très difficile. Nous sommes allés à l'hôpital général où le médecin a fait le scanner. Il nous a fait comprendre qu'il fallait une somme de 1 million pour l'opération. Maintenant, pendant que nous sommes 1 million, la tumeur s'est infectée. À la maison, la situation est très difficile parce qu'il faut subvenir aux petits besoins. L'infection qu'elle ne peut guérir que si on opère la joue.
D'après Bibéhe Pierre, un responsable du ministère des Affaires sociales qui s'occupe des personnes âgées, le gouvernement camerounais va mettre sous pied des lois sur la protection des personnes âgées.
Il est question dans ce plan d'action d'essayer de voir l'avenir, même dans 20-30 ans, à quoi pourrait ressembler l'encadrement des personnes âgées.
La division de la population des Nations Unies estime que d'ici 2050, le nombre de personnes âgées va passer à 2 milliards dû à l'amélioration de la qualité des soins et 80% d'entre eux vivront dans les pays en voie de développement. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Présidentielle américaine, c'est au tour du candidat démocrate, la vice-présidente Tim Kaine, et son adversaire républicain Mike Pence de croiser le fer ce soir à Farmville en Virginie dans un débat télévisé. Pour en parler, Timothée Donangmaï a joint le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlotteville qui présente tout d'abord le démocrate Tim Kaine.
Oui, il est ex-gouverneur et aussi, bien sûr, le sénateur de l'État. Très populaire en Virginie, assez modéré en tant que démocrate. Il va aider, c'est sûr, Hillary Clinton dans l'État de Virginie, qui est un peu un swing state.
Un État clé.
Oui, c'est clé parce que c'est un des États importants. Et Hillary Clinton fait campagne moins en Virginie à cause de Kaine, qui fait la plus grande partie de la campagne en Virginie.
Et qu'en est-il du gouverneur Mike Pence d'Indiana, le républicain?
L'antithèse aux antipodes de Trump en ce qui concerne leur personnalité. Il parle très lent, il n'a pas de charisme. Donc c'est un peu, comme je disais, l'antithèse de Trump. Très populaire au sein du parti républicain, surtout avec les conservateurs. Et assez un grand succès en tant que gouverneur en Indiana.
D'habitude, le rôle du colistier, du candidat à la vice-présidence, c'est de passer à l'attaque contre le camp adverse. Est-ce que ce sera le cas dans ce débat Pence-Kaine?
Dans cette campagne, Trump, surtout, il aime attaquer Clinton. Il n'a pas besoin d'un vice-président qui le fait. Et c'est un peu la même chose avec Mme Clinton, qui, pendant le dernier débat, elle a attaqué surtout pendant ce débat-là. Donc, je crois que ce sera un peu différent. Ces gens-là n'ont pas la personnalité d'un chien qui attaque, ni l'un ni l'autre.
Oui, alors à quoi faut-il s'attendre dans ce débat?
Je ne sais pas exactement, mais probablement ça va être une discussion plus présidentielle, si vous voulez, qui va parler des questions de politique, la politique étrangère. J'imagine que ce serait un peu le débat qui, en s'attend, pour un débat présidentiel. Bien sûr, il y aura des occasions de l'attaquer l'autre, mais c'est surtout un temps tout à fait différent.
Jim Caesar, politologue américain. Le monde d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Ce sera tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Jean-Roger Billon à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.